Le chayit tsahar tirye, et une vie de peine, tsahar au sens de peine, de souffrance, une vie de peine tu vivras, ou va toire à ton omel, et dans la Torah, tu travailleras d'arrache-pied, tu travailleras donnant du mal. Voilà, voilà qu'est-ce que c'est le programme pour la Torah orale. Voilà le programme de la Torah orale. Donc, et le Talchuma le démontre par les textes. Nous continuons. Le fi. Alors pourquoi maintenant la Torah alors orale est-elle importante? Le fi chez lo koras hakodesh baruch hu berisim Israël et lo la Torah chez Balpé. Parce que Dieu n'a tranché, n'a contracté d'alliance avec Israël que sur la Torah orale. L'alliance que Dieu a faite avec Israël, est-ce qu'elle porte sur la Torah écrite, sur la Torah orale ou sur les deux? Bien sûr, elle porte sur la Torah entière, mais elle porte essentiellement, sinon exclusivement, sur la Torah orale. Et nous voyons que nous sommes en plein dans notre Gemara d'hier et en plein dans le pharisianisme. Et pour comment le savons-nous? Comment le savons-nous? Car il est écrit dans l'Exode, au moment où Dieu, par la suite, va donner les tables de la loi, à Moïse. Il est écrit, tu inscriras les tables comme il est écrit, et car la fin du verset, qui alpi ha devori moele korati trobris. Alors alpi, évidemment, ça veut dire en hébreu, à cause d'eux. Mais pour dire à cause d'eux, il y a 36 mots différents. Et comme par hasard, le verset, et c'est à toi écrit ici, il parle, pour dire, car c'est à cause de ces paroles que j'ai contracté alliance avec toi, avec toi Moïse, et le verset continue, ou Israël, comme par hasard, alpi, n'est-ce pas, sur la bouche de ces mots. Alpi, puisque alpi, ça veut dire le mot p à l'état construit, hein, c'est tout à fait grammatical, alpi, p donne pi, alpi, sur la bouche de. Alors, évidemment, en hébreu moderne, et même en hébreu rabbinique, c'est peut-être un peu ironique, enfin, on dira plutôt le avo, etc., mais alpi, n'est-ce pas, à cause de, en faveur de, en, à cause de. Alors, qui alpi adorim aoele, pour un grammairien de l'Université de Jérusalem, ça veut dire simplement, car à cause de ces paroles du contrat d'alliance, mais comme par hasard, on emploie qui alpi, ce qui permet à la Gemara de lire, et la Gemara va lire comme ça, car alpi, c'est sur la bouche, sur le dit, sur la transmission orale de ces paroles du contrat d'alliance. C'est pas sur l'écrit que je te donne, c'est sur le dit oral, la transmission de ces paroles qu'on a gardé. Et le Talchuma le dit tout de suite. Et alpi avant l'air, il est Veomru hachomim zichrono livracha. Et nos sages, bénis soit leur mémoire, ont dit Lo kosav hakodesh baruch hu batoira. Dieu n'a pas écrit dans la Torah écrite, dans la Bible, dans le verset que nous venons de lire, le verset de l'Exode, Dieu n'a pas écrit le man advorim oele. Le man, en faveur, à cause de ses paroles. Il n'a pas écrit velo ba avour advorim oele. Il n'a pas dit ba avour, à cause de ses paroles. Vous voyez toutes les possibilités qu'on aurait pu dire. Velo bigla l'advorim, et pas en raison, en faveur de ses paroles. Oui. Donc il nous dit, oui, il y avait 36 000 façons de dire ça. Il n'a pas dit bah avour, il n'a pas dit bigla, elo, mais qu'est-ce qu'il est écrit? Alpi advorim. Il est écrit à cause de, mais enfin le terme alpi sur la bouche. Vezo, qui Torah shebalpé. Et ça, eh bien, c'est tout à fait clairement la Torah orale, la Torah shebalpé. Oui.
Ma bouche, alpi.
Non, c'est l'état construit. L'état construit, à l'état construit, alpi. Alpi ha devorim, parce que pi est construit dvarim. Alpi ha devorim aele. Comme kitve ha kodesh. Alors ktavim donne kitve, n'est-ce pas? L'état construit. Sous sim, mais sous se ha meler. Alpi ha devorim. Sinon, ça serait pe. Torah shebal pe ici. Alpi ha devorim. Grammaticalement, c'est tout à fait cohérent. Donc, vezo hi Torah shebal pe. Et ça, c'est la Torah orale. Ça va jusqu'à présent. C'est passionnant, ce texte. Shehi kosho l'ilmod. Et ça, Torah shebal pe. Shehi kosho l'ilmod. Qui est dur, qui est difficile à apprendre. Veyejbo tsa'ar godol. Qui est dans laquelle il y a une peine, une souffrance très grande. Le Talmud le reconnaît. Shehi meshura la rocher. À tel point que l'on compare la Torah orale à l'obscurité. Comment ça se fait? Chez Nema, effectivement, nous l'avons vu, si on lit un texte de Torah orale comme ça, on n'y comprend rien. Chez Nema, comme il est écrit, Ho'om ha'olchim ba'hosher, c'est un verset d'Isaïe. Ho'om ha'olchim ba'hosher, ro'or godol. Le peuple qui marchent dans l'obscurité, a vu, ils ont vu, pluriel collectif, une grande lumière. De quoi s'agit-il? Et le Baalé à Talmud. Il se dit talmudiste. C'est-à-dire talmudiste, c'est-à-dire les maîtres, ceux qui s'occupent de Torah orale. Shiro or Godol, qui ont vu une grande lumière. Pourquoi? Shakadosh Baruch Hu, Meir et Nehem, de Issur de Heter, de Tomé ou de Tour. Car Dieu, que ça béni soit-il, éclaire leurs yeux, dans quoi? Dans le Issur, dans l'interdit. De Heter, et dans le permis. De Tomé, dans l'impur. Ou le tour et dans le pur. Et là, il faut qu'on s'arrête quand même deux minutes. Vous avez à la fois la définition de la Torah orale et la définition, finalement, de tout ce qui est le rôle bon, de la Torah et d'Israël dans l'histoire. La définition qu'il va donner, c'est la définition de la moralité. Distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Rav Ashkenazi a fait un peu allusion, si c'est hier matin ou ce matin, pour l'arbre du bien et du mal. Distinguer le bien du mal. Eh bien, c'est la Torah orale, ça, il marche dans l'obscurité. Ceux qui marchent dans l'obscurité, eh bien, verront la lumière, parce que nous avons vu au début que Dieu a mis en allusion dans la Torah écrite des choses cachées, les a dévoilées dans la Torah orale, et la Torah orale, il l'a révélée à Israël. Par conséquent, ceux qui possèdent la Torah orale, les talmudistes, sont capables, partant de l'obscurité, Dieu leur a éclairé leurs yeux. Et ils sauront qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce qui est permis, ce qui est défendu. Autrement dit, ça, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Bon, je crois que ce n'est pas la peine de développer... Vous voyez, les mots qui sont choisis, avec ces quatre mots, tout le but de la Torah et la moralité est défini, et le lien avec la Torah aura aussi. C'est suffisamment clair? Je peux continuer. Velo aussi de l'euro, mais pour l'instant, nous savons quelle peine nous avons à peiner sur la Torah orale. Velo aussi de l'euro, et dans le futur, velo aussi de l'euro, c'est-à-dire à la fin des temps, il y a un verset des juges qui dit, « Oharvof, nous avons vu donc le premier verset, il marchait dans la lumière, l'homme, le peuple, a dans la lumière, vu la grande lumière, effectivement à la fin des temps, ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment la Torah orale, que comme la sortie du soleil dans tout son éclat, dans toute sa gloire, toute sa puissance, ils verront la lumière de la vérité, de la connaissance dans sa plénitude. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Alors là, comme par hasard, tout d'un coup, la Tanhuma va citer notre Gemara hier. Et c'est là que nous rejoignons, que nous rentrons de plein pied dans notre sujet. Velo kiblu Israël et sa Torah, atchekofo aleyem akolish boro et sa oréguis. Et, je traduis mot à mot, là aussi, ce texte qui va venir, le Maharal va nous l'éclairer demain, parce qu'il est difficile. Et Israël n'a accepté le kiblu, la Torah, ad, jusque, n'a pas accepté la Torah avant que, nous dirions en français, n'a accepté la Torah que lorsque, lo ad, et Israël n'a accepté la Torah que lorsque, kofoalem, que lorsque Dieu a renversé sur la montagne comme un baquet. Chez Néhémar, la preuve, vous voyez donc la méthode de Tanhuma, il va citer notre verset et notre Gemara. Et donc, la même méthode que vous allez voir, la Gemara, nous connaissons, c'est la même qu'il a appliquée avant et qu'il appliquera après, n'est-ce pas? Chez Némar, comme il est dit, je vais très vite, c'est notre texte, comme il est écrit dans le verset de l'Exode, et ils se tinrent debout en dessous de la montagne. Omar, Rabdine Barchomo a dit, Omar, le Rémakodosh Boroukou, le Israël, Dieu a dit Israël, Im, Karli Matem, la Torah, Moutav. Si vous acceptez la Torah, c'est bien. Im, l'œuvre, et sinon, Chante, Urasrem. Là sera votre tombeau. C'est notre Gemara, c'est le début de notre Gemara. Et alors là, le Tanhuma pose une question, la même question que tout le monde. Enfin, bon sang, bonsoir. Les Juifs avaient dit Nasev Nishma. Comment c'est possible? Veim Tomar, et si tu dis à la Torah chez Birsov, sur la Torah écrite, Kofa le Mesoror, sur la Torah écrite, Dieu a fait la Kefia, Dieu a renversé sur la montagne. Comment peux-tu dire ça? Ve Halo, Micho, Shoma Lohen. Me Kablin, Atem et sa Torah, dès le moment où Dieu leur a dit, vous acceptez la Torah, Onu Chulam ve Omru Nase ve Nishmo, tous se sont écriés, ont répondu d'une seule voix, nous acceptons, nous ferons. Est-ce que tu peux dire que Dieu a renversé la montagne sur Israël pour la Torah écrite? C'est pas possible. Et c'est là le chidush qu'apporte Tanhuma, la chose nouvelle. Pas possible, puisque Israël avait dit auparavant, nous ferons. Donc on ne peut pas dire que ça s'est fait pour la Torah écrite. Et pourquoi est-ce que Israël avait dit « Na se venishma » sur la Torah écrite tout de suite, d'emblée ?« Mipenei, she'ein bo yegia betzar, vehim at » Parce que dans la Torah écrite, il n'y a pas beaucoup de travail, dit Guilla. De tsar, dit de souffrance. Il y a peu de choses, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il y a peu. C'est peu de choses. Enfin, c'est peu de choses. C'est déjà beaucoup, mais c'est peu par rapport à la Torah orale. Et là, Omar Lohen à la Torah chez Balpé. Mais il leur a dit, ce qu'il leur a dit hier dans la Gemara, n'est-ce pas, en renversant la montagne, il leur a dit ça au sujet de la Torah orale. Chez Yeshbo, dans laquelle il y a Digdoke, Mitzvos, Kalos, Vechamuros, dans laquelle il y a les détails précis des Mitzvos faciles et difficiles, des commandements faciles et difficiles. Vehi Azochamoves, le Koshokisho Olkinoso, et cette Torah orale, elle est dure comme la mort. Voyez, nous retrouvons ce qu'on a vu tout à l'heure là-haut. Elle est forte, pardon, comme la mort. Et elle est dure comme le Shol, comme le tombeau, le Kinoso, et sa jalousie. Et dur et comme le tombeau. Le fils, pourquoi? Chez Ein Loïmed Oso Elomi chez Oreva Kodesh Borokou. Car ne peut étudier la Torah orale que celui qui aime Miche Orev Hakodosh Borokou, Vechol Libo, ou Vechol Narcho, ou Vechol Meodo, celui qui aime Dieu de tout son cœur, exactement, et de toute sa personne, et de tout son pouvoir. Alors là, le Kanjoua aussi va nous faire une lecture extraordinaire. Je dois avouer que pour moi, c'était peut-être certains d'entre vous connaissez déjà ce qui suit. Moi, je l'ai appris pour la première fois en préparant ces textes. Et comment, qu'est-ce qui est écrit? Comment le savons-nous cela? Que ne peut étudier la Torah orale que celui qui aime Dieu avec tout son cœur, avec tout son être et avec toute sa force. Me'od. Et me'od, vous savez que ça veut dire tout ce qui est la matière, le matériel. Il correspond, enfin, définit Aro, la jouissance du monde, l'honneur, enfin, la préoccupation de la Mazé. Comment le savons-nous? Chez Neymar, car il est dit, Ve'hafto et Hashem Elokeho, Ve'chol Levofro, Ve'chol Modero. Vous savez que le chemin se compose de trois parties. La prière du chemin, que nous disons, donc dans le rituel, c'est d'ailleurs non, c'est pas ce séminaire-là. Bon, chemin, vous savez que, oui, c'est hier soir que Rav Askenazi en a parlé, dans sa conférence. Vous savez, le chemin se compose de trois parties. L'affirmation de la prophétie de foi, « Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad » c'est tiré de Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Et il suit cette première partie que nous allons, dont le début est donné ici par Tanchuma. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. » Ensuite, il y a une deuxième partie qui se trouve aussi en Deutéronome, chapitre 11, verset 13 et les suivants. Et l'intitulé est différent. Et Tanchuma va nous montrer la différence entre les deux. Et il y a une troisième partie qui parle des Tzitzis, qui lui est tiré de nombre, chapitre 15, verset 37 et la suite, bon, pour lequel il n'y a pas de problème ici. Le Tanakh va montrer la différence de formulation de la façon d'aimer Dieu, que ce n'est pas écrit de la même façon, dans la première paracha, la première partie du chemin, et la deuxième partie du chemin. Allons le suivre, si vous le voulez bien. Ça va, on peut continuer. Donc il est écrit, tu aimeras, retenez bien qu'il y a trois termes, le chol le vofro, avec tout ton cœur, avec tout ton effet, tout ton être, ta personne, frôle-motro et tout ton pouvoir. Me'od, il y a des commentateurs qui expliquent, c'est l'argent. C'est tout ce qui est le symbole du monde matériel de l'Olamazé. Uminaïn, Atolomed, et d'où est-ce que tu apprends? Chez Eina Hava, Zo Eloloshon Talmud, que lorsqu'on dit amour, tu aimeras, que le terme d'amour ne se rapporte qu'à Talmud, que ce mot signifie Talmud, Talmud c'est-à-dire Torah orale, Re'e, regarde, dit Anpoma, Re'e marxi baharov, qu'est-ce qui a marqué après? Je vous cite, qu'est-ce qui a marqué après, dans le chemin? Ve'royu, hadevorim, ho'ele, et seront ces paroles, acheronor imetzafroyom, que je te donne aujourd'hui, alevofro, ve'shinantom, et tu les traduit inculqué, mais ça vient, n'est-ce pas, d'un mot shanan qui signifie aussi aiguisé, n'est-ce pas, aiguisé, finement. Le shinantam, le vonero, à tes fils, le dit Bartobom, etc. Vous connaissez en gros le... Bon. Alors, il dit, qu'est-ce qui est écrit après le premier, ce qu'on vient de lire, le Rav Toshem Elokecha, tu aimeras de tout ton cœur, de tout ton pouvoir, qu'est-ce qui est marqué? Comment savons-nous que Ahava, ici, aimer Dieu, ça veut dire étudier la loi orale? Comment le savons-nous? Eh bien, regarde... Maxi Bacharov, qu'est-ce qui suit? Le royu ha devorim ou eile, acheronem sa proyam la vercho. et seront à Devorim. Ces paroles que moi, je t'ordonne aujourd'hui, al levovero, sur ton cœur. Alors, le Tanhuma montre comment les Chachamim expliquent. Le Eize, qu'est-ce que c'est que ça? Le Talmud. C'est le Talmud. Chez Hu al alev, qui est sur le cœur. Et d'où savons-nous que c'est le Talmud qui est sur le cœur? Hare Omer, car il est écrit, le Shinan Tom levonero. Ces paroles que tu dois mettre sur ton cœur, tu les Shinan. Tu les, on traduit, inculquera à tes fils. Mais il dit ça, c'est le Talmud. Pourquoi? Chez Tsorir Shinun. Le mot Shinun, ça veut dire mémorisation. Tu les feras mémoriser à tes fils. Autrement dit, il s'agit bien de la Torah orale. Le mot, si vous regardez même dans un dictionnaire, Shinun, même dans un dictionnaire, j'ai même vérifié dans le Ebel Shoshan, parce que je suis un maniaque de la terminologie, ce mot, effectivement, c'est, a le sens aussi de mémorisation, même en hébreu moderne. Donc, il s'agit bien du Talmud. Ça va, c'est clair. Donc, la première paracha, tu aimeras le Seigneur avec les trois choses, Lev, Nefesh et Me'od, il s'agit bien du Talmud. On peut continuer. Alors, cela, donc, tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, le Lametro, c'est pour t'apprendre, chez Porosho Rishoina, chez Bekrias Shema, que cette première paracha, c'est-à-dire, n'est-ce pas, celle qui va de Deutéronome 6.4, c'est que nous venons de voir maintenant, cette première paracha de Kriyas Shema, Ein Bo Perush Matan Soro Oilamazé. On ne trouve pas, si l'on lit la paracha jusqu'à la fin, on ne trouve pas dedans d'explicitation du fait qu'on va nous donner une récompense dans ce monde. Tu les le soir et matin, tu le diras, tu les mettras comme un fronton sur les tefilines, sur le bras, mezouza, etc. Terminé, n'est-ce pas? On te dit ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on parle de récompense? Est-ce qu'on te dit, voilà, et tu auras une récompense? Il n'est pas question de récompense là-dedans, n'est-ce pas? On nous dit, voilà ce que c'est. Toi, chez Balpé, pas de récompense dans l'Amazon. Pourquoi? Par contre, que mot, chez Kosov, le Porosha, chez Nia. Par contre, dans la deuxième paracha, lorsqu'on reprend, le Hoyo, im shomoa tishmeu, et il sera, si écoutez, vous écouterez, le mitzvosa, etc. N'est-ce pas? La deuxième paracha reprend. Et dans cette deuxième paracha, on dit Tanhuma, la formulation est différente. On dit, si tu feras cela, avec lev et nefesh, on ne parle plus de me'od. Vous voyez, le troisième terme n'y est plus. Alors qu'est-ce qu'il y aura? Tu auras la pluie en ton temps. La terre donnera sa pluie en son temps. Vous vous souvenez? La terre donnera sa production. Là, il y a une récompense. Et c'est ce que nous dit le Tanhuma. Qu'est-ce qui est marqué dans la deuxième paracha? Le Hoyo im shemoa tishmeu. Et il arrivera. C'est le début, donc, de cette deuxième. Vous voulez qu'on reprenne en détail ou c'est pas la peine? Et il arrivera, si écoutez, vous écouterez les paroles. Et la fin de cette deuxième paracha de Kriyat Shema dit, Venosati metar artsechem. Je donnerai la pluie à votre terre. Ze matan srar oske mitzvos. Voici. Ça, c'est la récompense de ceux qui travaillent, qui s'occupent, mais sérieusement. Quand on dit Osek, ça veut dire travailler toute la journée. Hein. T'as un petit cours, un petit séminaire une fois par an. De ceux qui étudient Mitzvot, et il y a une autre version, on vous met entre parenthèses, il y a un autre manuscrit dans lequel c'est explicité, le Tanhuma étant du 4e siècle, les premiers manuscrits auraient été édités apparemment au 8e siècle, ils n'ont pas imprimé des manuscrits. Donc, il y a différents manuscrits. Il y a des manuscrits dans lesquels c'est encore plus clair. Et cette version-là, cette édition critique du Saint qu'on nous donne, il faut lire même Oske Mitzvot, Torah Shevirtav. C'est la récompense de ceux qui étudient les commandements de la Torah écrite. Chez Ein Oskin de Talmud, qui n'étudie pas jour et nuit, et moi qui ajoute jour et nuit, parce qu'Osek n'étudie pas ardemment le Talmud. Ou Fora Shashnia, Kosibo. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette deuxième paracha? Avec tout votre cœur et avec tout votre être. Et il n'est pas écrit avec tout votre me'od, votre force, toutes vos possibilités physiques. Le la metro, ceci pour t'enseigner, chez Kolmi, chez Ohev, Osher de Sanouk, que tout celui qui aime la richesse et la jouissance, Eino yochol lilmod Torah shebalpe, ne peut pas étudier la Torah orale. Le fi, il revient, vous voyez, pour ceux qui n'auraient pas compris, il entend ça comme marteau pilon, le fi, chez Yesh Botsar Godol, car il y a en cette Torah orale une grande peine, souffrance, de Nidocheno, et une privation de sommeil. Ce qu'on a vu, n'est-ce pas, ce texte, tu mangeras peu, tu boiras peu, tu dormiras peu, et tu te crois que la Torah. Veyeish me vale, ou me nabel atzmo leho. Et celui qui étudie la Torah orale, il se use, il se consume. Me vale, vous savez, vale, on dit dans la Torah, les chaussures des Hébreux ne sont pas usées, n'est-ce pas, quand on est une chaussure usagée, on dit me vale, n'est-ce pas, elle est complètement usée. Eh bien, oh, il s'use, ou me nabel. Il s'épuise, ça veut dire flétrir normalement. Il s'use et il se flétrit lui-même sur la Torah. Toujours dans le sens qu'on a vu, se tuer soi-même, tuer ce qu'il y a en soi d'équation personnelle ou d'adéquation à ce monde-ci, du olam hazeh, du déterminisme, du monde uniquement matériel qui n'a pas son sens, pour dépasser, pour transcender cela, ça demande un effort gigantesque. Oui, vous voulez poser une question ? Oui. Comment je traduis Nabel ?
Oui.
Ben, ça vient d'un verbe Nabel qui signifie épuiser, flétrir, nevela. Pardon ? Vous savez, je connais un peu le yiddish que j'ai appris à l'âge de 19 ans, parce que je suis allé étudier avec un monsieur qui m'a. J'étais à l'époque en province à Grenoble, et alors je voulais un peu étudier. Et alors il y avait ce monsieur qui était là, un réfugié de Strasbourg. Alors je ne parlais pas français. Moi je parlais un peu l'allemand parce que je suis né en Lorraine. Et alors. Demandé, enfin, en charabia un peu allemand avec lui, est-ce que, combien de temps êtes-vous là ? Il m'a dit, n'est-ce pas, depuis 40 ans, il est en France, depuis 40 ans à Strasbourg. Alors, moi, je l'ai un peu étonné, il m'a répondu, il a demandé, faire sécurité de Franca d'Armagan Francaisiche. Et si on vit 40 ans en France, c'est insuffisant pour comprendre le français. Alors, j'ai compris que moi, que lui apprendra jamais déjà le français. Si je veux un peu étudier avec lui, il faut que j'apprenne un minimum de yiddish. Alors, mon yiddish, il ne faut pas me demander à moi des problèmes de yiddish. Je connais le minimum pour pouvoir être capable d'étudier. Mais Nabel, c'est se flétrir. Je ne sais pas comment yiddish, je ne sais pas. Dans la Torah, vous avez une feuille qui flétrit. Dans le Sanhedrin Toikov, on vous dit comme la feuille qui flétrit. Vous savez le dernier mot de Sanhedrin Toikov ?
Non, je demande des niboulpens, ça vient des.
Flétrissure de bouche ? Oui, c'est la même racine.
Non, non,
mais en yiddish, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas yiddishisant. J'ai assez de mal d'être hébraïsant. Et encore. Je suis ashkenaz, ce n'est pas du yiddish que je lis. C'est de la. Je suis de rite ashkenaz. Mon maître Jacob Gordin, qui est un mistagid, mes maîtres. Il y a des maîtres ashkenaz sparades. Hein. Le Ramban, c'est un sparade. Rav Ashkenaz, c'est un sparade. Moi, je lis dans mon rite. Et quand j'apprends à lire, comme ça m'arrive. À quelqu'un de Sfarad, je fais un grand effort pour essayer de prononcer leur aïn, n'est-ce pas, au risque d'avoir mal la gorge en deux jours après, pour lui apprendre à lire dans son rite à lui, en lui expliquant qu'il faut qu'il lise, n'est-ce pas, it kadal, it kadash, merhaba, n'est-ce pas. Bon, mais moi, quand je lui dis kadish, je ne dis pas comme ça. Alors, cette parenthèse qui nous aura permis de nous reposer un peu, effectivement, de cette extraordinaire difficulté de la Torah orale. Donc, effectivement, celui qui, n'est-ce pas, il y a une grande tsar, il y a une privation de sommeil, et il se use, il se consume, il se flétrit. Comment est-ce qu'on dit c'est pas, il dit, comment diriez-vous ? Opmatn. Opmatn, n'est-ce pas ? C'est comme un schmat, il se use, n'est-ce pas ? Il va devenir complètement bon. Oui, c'est pas de briser, c'est user, vous voyez, c'est un truc de longue haleine. Il se use, il se flétrit, n'est-ce pas ? Sur elle, le fichor. Le firar, c'est pourquoi matan sroro le olam habo, c'est pourquoi la récompense qui lui est donnée, elle est dans l'amaba. Pour cet homme-là, pour celui qui étudie Torah chez Balpé, il n'y a pas de récompense dans l'amaba hazé, dans ce monde-ci, puisque justement, il fait un dépassement lui-même. Il se tue, vous voyez, il va passer, comme par la mort d'un certain olam hazé, pour arriver à un certain olam haba. Donc sa récompense ne peut avoir lieu que dans son olam haba. Par conséquent, il n'y a pas pour lui de récompense dans Olam Hazeh. Comme il est dit, il n'y a pour lui de récompense que dans le monde à venir. Comme il est dit, Ho'om ha'holchim b'chosher, ro'or godol. Nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, le verset. Le peuple qui marche dans l'obscurité verront une grande lumière. Or godol, qu'est-ce que c'est que cette grande lumière ? Or, chez Nivro Boyom Rishon, lumière qui a été créée le premier jour. Chegonouzor Hakodesh Boruchu, le Amale Soira Shebalpe, Bayoma Balaila. Et que Dieu a mis en réserve pour ceux qui travaillent d'arrache-pied dans la Torah orale, jour et nuit. Chebis Rousson ou Oilam Oimed. Car c'est à cause de leur mérite que le monde tient, subsiste et debout. Chez Neymar, comme il est écrit, comme il est dit, Koyomar Hashem, c'est donc un verset de Jérémie, que vous connaissez d'ailleurs beaucoup d'entre vous, Koyomar Hashem, im lover ici en voloilo, kokoshem voret lo somti. Si pas mon alliance, jour et nuit, les lois des cieux et de la terre, je n'aurais pas placé. Si pas mon alliance, jour et nuit, je n'aurais pas créé le monde avec ses lois, chok, n'est-ce pas, chok. C'est-à-dire ces lois qui font que le monde fonctionne comme il fonctionne. Alors, là aussi, regardez bien, je n'aurais pas créé le monde avec les lois qui le régissent, avec son déterminisme, s'il n'y avait pas eu mon alliance, jour et nuit, s'il n'y avait pas eu ce rachat. Vous voyez le rapport entre la gomme d'hier. La survie du monde n'est garantie. Le déterminisme n'est garanti. Bon, on n'a rien résolu pour l'instant, mais nous voyons comment nous allons essayer d'étudier demain les problèmes, n'est-ce pas ? Demain et après-demain. Le monde ne peut se tenir que parce qu'il y a alliance. C'est écrit en Jérémie. Si pas mon alliance, je n'aurais pas créé le monde. Je n'aurais pas placé les lois du déterminisme s'il n'y avait pas cette alliance qui est garante jour et nuit. C'est-à-dire une alliance qui doit subsister continuellement pour que le monde subsiste. Vous connaissez aussi ce passage célèbre qu'on dit le monde repose sur le souffle des petits-enfants qui apprennent la Torah. Pas au Kheder. Bon, c'est apprendre à la lettre, comme dirait un antipharisien.
Madame,
ça c'est autre chose, ça c'est un autre thème. C'est les sadikim nistarim, ça c'est autre chose. On dit que le souffle sur la bouche des petits-enfants qui étudient la Torah, ce souffle permet au monde de tenir. Bon, alors, donc, là, si pas mon alliance jour et nuit, les lois, ça veut dire les lois, les lois de nature, Newton et compagnie, enfin les lois de la physique qui réagissent sur la Terre, je ne les aurais pas établies. Eizehu veris, shenoi bayom alayla. Alors, la Tanukuma, n'est-ce pas, toujours nous explique, qu'est-ce que c'est que cette alliance qui fonctionne jour et nuit, sans interruption. Zo Talmud, c'est le Talmud. Vehenu Omer, non, Talmud, on l'a bien vu par opposition à Torah Shibirtav, il l'a bien mis dans tout ce qu'il y a, c'est l'étude de la Torah orale, Talmud. Donc dans tout le contexte, ici, il n'y a pas d'erreur possible, et vous verrez d'ailleurs par la suite que Torah Shibirtav, c'est pour le jour, Torah Shebalpe, c'est la nuit, mais c'est sur jour et nuit, surtout la nuit. L'une, c'est la face visible, elle est Hefker, tout le monde l'a. Elle est écrite. Les goyim aussi pour la consulter. La Torah orale, elle est cachée. Elle est de l'ordre de la nuit. D'ailleurs, elle est obscure pour nous, comme la nuit, tant que Dieu n'a pas éclairé, comme il l'a dit, éclairé les yeux de ceux rocher. La Torah orale est comparée à l'obscurité. Tu te souviens, on a dit tout à l'heure. Non, ici, il n'y a pas de problème. Talmud, c'est Talmud Mamash. Hein?
Donc la loi orale.
La loi orale, le Talmud. C'est-à-dire ce qui fait l'essence, l'essentiel, la base de la loi orale. Alors, qu'est-ce que c'est donc? C'est comme il est écrit, Komar Hashem, im toferu, esberisi hayom, esberisi halaylo. Si vous brisez mon alliance de jour et mon alliance la nuit, gamberisi soufar, esdovit avdi, etc. Le verset est tronqué, il y a une partie du milieu qui n'est pas citée, mais elle n'est pas nécessaire pour nous. Eh bien, si vous brisez mon alliance du jour et de la nuit, moi, je briserai aussi mon alliance avec David, mon serviteur. Donc là, il y a un élément nouveau. Si vous brisez l'alliance, moi, je brise. Si Israël ne se met plus sous le joug de la Torah, eh bien, Dieu se considère également libéré de l'alliance qu'il a conclue avec David. Comment, jusqu'à quel point? Bon, Olivia, elle est là, Olivia, a fait allusion déjà hier, évidemment, à ce problème dont le Maharal traitera. Mais, comme vous voyez, j'ai choisi un texte difficile parce que, vous l'ai dit, ne pas escamoter les problèmes, c'est beaucoup plus complexe que de dire simplement qu'il n'y a eu que Fia pour que Dieu se sente obligé, puisqu'on vous dit qu'il y a quand même des possibilités d'une alliance qui pourrait être rompue. Veu Omer, et il est dit également dans le psaume, qui im besoras Hashem reptso vosoros seyem voyom voloilo, car il est écrit, car c'est uniquement dans la Torah de Dieu qu'est son but, son chefet, l'objet de son désir. Chefet, ça veut dire le désir. Le désir, au sens même, enfin, où les psychanalystes l'utilisent, mais ça veut dire aussi l'objet, n'est-ce pas? Donc, l'objet de ses préoccupations. Car c'est uniquement dans la Torah qu'est son chefet, le but de son désir. Ou vosoroso yegiyom voloilo, et c'est dans sa Torah qu'il médite jour et nuit. Donc, vraiment, là, je crois que c'est clair. Afakodesh Boruchu, Koras, Beris, Israël. Alors là, il y a un élément important. Et également, Dieu a fait une autre alliance avec Israël, une alliance complémentaire, à savoir, chez l'eau, Sishtakar, Torah Shebalpe, Mipihem ou Mipizarom, Atsof, Kol Hadorot. Que ne sera pas oublié, que la Torah orale ne sera pas oubliée de leur bouche, la bouche d'Israël, et de la bouche de leurs descendants jusqu'à la fin de toutes les générations. Et il va le démontrer, comme toujours, n'est-ce pas, parce que tout est prouvé, chez Néhémie, comme il est dit, vous savez, ça se trouve dans une prière qu'on dit tous les jours, après Ashrei, on dit Uva le Tzion, la prière du matin. Et il y a un moment donné, n'est-ce pas, Ato Kodol, etc. Et ce verset qui va être cité se trouve là-dedans. Qu'est-ce qu'il est dit là-dedans, dans ce verset, qui est un verset d'Isaïe ? Ve Anizos. Oui, Isaïe. Et moi, non, Dieu. Et moi, Ve Ani, et moi, Dieu. Zos Berissi Osam, Omar Hashem. Et moi, Zos, voici mon alliance avec eux. Omar Hashem, dit Dieu. Ruchi Asher Olecho, mon souffle, mon esprit, qui est sur toi. Ou de Vorai, et mes paroles. Asher Samti de Firo, que j'ai placé dans ta bouche, Lo Yomushu, ne s'en iront jamais. Et alors, le Talmud fait un suspense, il dit qu'est-ce qui s'en est ? Quelle est la suite du verset d'Isaïe ? Quel est le verset ? Et les paroles ne partiront jamais. Et le Talmud m'a dit, et le verset ne continue pas, de l'Oxiv, le verset ne continue pas, et ces paroles ne quitteront jamais, Mimcho, ne partiront pas de toi. Mais Elo Mipicho, ou Mipizarho, ou Mipizarho, Zerazarho. Car quel est le verset complet, le Talmud l'a coupé, et les paroles, et ces paroles que j'ai placées dans ta bouche, Lo Yomusho, Mi Piro, ou Mi Pizarho, ou Mi Pizarazarho. Voilà ce que dit Isaïe. Les paroles que j'ai placées dans ma bouche, que j'ai placées dans ta bouche, ne partiront jamais de toi. Non. C'est marqué, ne partiront jamais de ta bouche, et de la bouche de ta descendance, et de la bouche de la descendance de ta descendance. Donc, c'est clair, il y a une alliance qui fait que jamais ne sera oubliée en Israël la Torah. Je vois qu'il est 8h moins 2, n'est-ce pas, toujours, les programmes sont toujours très ambitieux. Je vais donc vous résumer. Mais vous voyez, l'hébreu n'est pas difficile, c'est le contenu qui est difficile. L'hébreu, quand même, je vais vous résumer la suite. La suite est la suivante, et nous verrons ensemble quand même les trois dernières lignes, parce qu'on en a besoin. La suite est la suivante, c'est qu'on nous dit, voilà, je pense que c'était intéressant quand même de voir pas seulement les quatre lignes dans lesquelles le Tanhuma montre, bien sûr, la différence entre Torah écrite, Torah orale, et qu'Israël n'aurait accepté volontairement que la Torah écrite et que la kafia était nécessaire pour la Torah orale, parce que c'est un monde tellement immense que les Juifs n'auraient pas osé l'accepter. Eh bien, la suite, je crois que c'était intéressant quand même de voir, pas seulement d'extraire ces quatre mots, mais de voir l'ensemble de ce texte dans sa cohérence. Alors ensuite, il dit que c'est pourquoi que Dieu a créé deux yeshivot dans lesquelles on s'occupe de Torah jour et nuit, donc rapport à la Torah orale, écrite et orale, que ces deux yeshivot ont été exilés au moment de la chute, de la destruction du premier temple, 12 ans avant que soit envoyé en galoute le roi Tzedekia, et que, avec les gens qui sont partis dans la première galoute, sont venus les sages, les Tamir Hachamim, il y a toute une explication que vous pourrez lire, et qu'on n'a donc pas le temps de voir, mais ce n'est pas très grave pour notre sujet, et que donc, ces hommes ont été exilés, c'est-à-dire, c'était un grand mérite que Dieu a fait, une grande faveur, d'exiler avec les premiers exilés, le roi, il s'agit donc du roi Yehonia, qui avait plusieurs noms, il est appelé Yoachim dans la Torah, qui a été exilé au moment donc par Nabucodonosor, 10 ans avant l'an 587, avant la chrétienne ou la destruction du temple, alors que Tzedekia, lui, a suivi après la destruction du temple, a été exilé dans une perspective catastrophique. Le premier exil, l'exil de ce roi qui n'a régné que 3 mois, qui était l'avant-dernier roi de Judée, lui, il a été reçu comme un roi, il a conservé toujours le titre de roi de Judée. Et il y a eu avec lui uniquement les Tamidei Chachamim qui sont venus avec lui, alors que le deuxième, le roi de Tzedekia, il y a eu 10 000 captifs On lui a crevé les yeux, au roi Sédécia, et il est mort là-bas. Par contre, le premier roi a été entouré d'honneur, et on raconte que même, enfin, on raconte, c'est un fait, que lorsque Nabucodonosor est mort, et que c'est Evil Merodach qui lui a succédé, ça c'est pas dit dans le texte, c'est pour que si vous lisiez, vous compreniez, eh bien, il a fait des honneurs, il lui a redonné son titre, et même une possibilité de vivre dans un palais, et les familles Khamim aussi. Et alors, nous dit le Tanakhuma, si cela a eu lieu, c'est pour que ces familles Khamim échappent à la fois à la destruction, donc ils n'ont pas été témoins de la destruction du temple, et échappent à la domination aussi bien de la Grèce que de Édom. Et ils ne verront pas non plus les douleurs de l'enfantement du Messie. Nous allons lire très rapidement, simplement, les dernières, vous prenez votre dernière page, je vais vous résumer, donc c'est ça. Il y a un verset qui dit que Dieu a exilé les Juifs, ils sont sortis. Mais Kyria, de la ville, à Sadé dans le champ. Kyria, c'est la ville, Sadé le champ, c'est l'exil. Alors vous prenez donc le haut de votre dernière page, et il est écrit que la Shekhinah, la présence divine, n'a pas abandonné Israël, même pas en exil. Et le verset de Micha, qui parle du fait que la Shekhinah n'a pas abandonné Israël, lorsqu'ils sont allés dans la galoute, à la deuxième ligne de votre dernière page, n'est-ce pas ? La deuxième ligne, vous prenez le troisième mot, Uvos, vous voyez ? Uvos, donc c'est une prophétie qui est faite, n'est-ce pas, par Micha, il dit pleure et gémit, fille de Sion, comme une femme qui enfante, je vous traduis ce qui précède, car maintenant tu sors de la ville et tu vas résider dans le champ, ne lis pas, il n'est pas écrit de cette façon-là, il est écrit non pas Veshochan, mais Shekhinati, avec une version ponctuée, évidemment, vous ne pouvez pas voir, mais c'est une version non ponctuée, donc on peut mettre d'autres lettres, cela veut dire, pardon, d'autres signes de lecture, pardon, ça veut dire que bien que l'homme est exilé, eh bien, la Shekhinah ne l'abandonne pas. Et le verset, donc, continue, « Ouvos ad Babel, et tu iras à Babel. »« Shom » c'est moi qui dis le mot, c'est moi qui écris, ça vous fait-il. « Shom tinotseli, là-bas tu seras sauvé. »« Shom yigoler Hashem ikafo ibaïr, là-bas le Seigneur te délivrera de la main de tes ennemis. » Et alors le Tanakhuma dit, « Shom » là-bas, la métro, pour t'enseigner, chez Nishom, que de là-bas, Masreles Hagoula, que de là-bas commence la délivrance, ou Nishom, Olin Yerushalayim, et que de là-bas, il monte à Jérusalem, chez Neymar, comme il est dit, Olomoshi Bahatzion, et les sauveurs monteront dans la montagne de Sion, Ososhua, à ce moment-là, à l'époque messianique, Roysola Shemam Lucha, et à Dieu appartient dans la royauté, et termine le Tanakhuma de Reigne Rotson, et qu'il en soit ainsi, soit ainsi la volonté de Dieu. Alors, nous avons évidemment, il est 8h04, je ne sais pas si vous avez très faim, si vous voulez une demi-heure pour manger, ou si vous m'accordez encore au moins 5 minutes, pour qu'on récapitule un petit peu.
Il a été dit. Pas demain, Michel.
Mais demain, nous avons le Maharal. Ah, un gros morceau.
C'est quand même important.
Oui, parce que je voulais au moins pour récapituler 5 minutes, déjà, pour que vous ne restiez pas sur une. Enfin, si vous êtes d'accord de me donner encore 5 minutes. Donc, nous avons vu une chose très importante. D'abord, nous avons vu que le Shom semble se rapporter à l'exil. Donc, il faudrait lire, si vous n'acceptez pas ma Torah, là-bas aura sera votre tombeau. Autrement dit, il semblerait, en première approximation, que la Torah orale soit capitale pour survivre en exil. Bon, je vais très vite, nous prendrons tout ça, et nous en reprendrons avec Rav Ashkenazi de dialoguer là-dessus demain et après-demain, parce que pour l'un contemporain, bon, ça doit tout. À la rigueur, la Torah écrite en Eretz d'Israël, mais en galoute, s'il n'y a pas Sham, il y a risque de tombeau. Nous verrons que ça veut dire tombeau. Nous voyons aussi que la Torah orale, pour l'atteindre, il faut même mitatsmo. Hein, il faut se tuer. Vous voyez, par conséquent, si on s'arrête à la Torah écrite, il y a un risque de koura.
le tombeau. Et vous verrez les commentateurs, c'est le Kiyaka, sur le verset de la Torah. Le verset de la Torah, chapitre 19, verset 17, donc de l'Exode, qui explique cela, qui montre que Kfoura, ça veut dire un lieu où il n'y a pas résurrection. Si on dit tombeau, ça veut dire il y a un autre endroit des... Est-ce que c'est faute de non tombeau, Rachid dit de non fosse. Kvura, il n'y a pas marqué mort. Tombeau, c'est-à-dire le lieu qui est une fin. Là sera votre tombeau, sera un endroit où vous serez, comme on dit, le groom. Vous me demandez tout à l'heure yiddish, ça je connais ce mot. Soyne Israël, Soyne Israël. On l'applique aux ennemis d'Israël. J'ai bien précisé. Si Ras le Shalom, n'est-ce pas, quelqu'un fait l'effort de vouloir passer par la Torah, et qu'il s'arrête en route, n'est-ce pas, et qu'il ne va pas avec la Torah chez Balupé, et bien là, il y a une fin. Il risque, c'est une Kvura, c'est un enterrement de première classe, n'est-ce pas, il n'y a pas résurrection. Et le Maharal explique, dans un moment dans la débat d'Israël, je suis d'accord, bon, mais c'est pas important, donc Dieu est Israël, que justement, qu'est-ce que ça veut dire les Sadducéens, pour une croix, ils n'ont pas, voilà, la Mabba, c'est pour avoir la Mabba, il faut le vouloir. Si tu ne rentres pas dans la Mabba, tu ne peux pas avoir la Mabba. Pourquoi est-ce que les ils n'ont pas droit à la résurrection? Parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour y rentrer. Bon, vous voyez aussi ce terme. Alors, deuxième chose, c'est que nous voyons. Oui. Oui, mais c'est un coma qui complètement renverse cette perspective. Alors, maintenant, je voudrais vous montrer. Alors, quand même, je voudrais une chose importante, de nouveau, nous avons vu donc, nous avons vu une chose, et pour revenir à notre coma, cette fois-ci, bon, que semble dire le Tanakhuma? Il semble dire, voilà, la Torah écrite, c'est facile. Bon, pas facile. C'est relativement facile. Il y en a peu. Hein, c'est des généralités. Donc, là, pour ça, Israël a dit tout de suite, Maaseh v'Nishma. D'accord, on a ce qu'on fait. La Torah orale, c'est tellement difficile. Il y a tellement de choses que ils ont reculé, ils ont eu peur. Par conséquent, il a fallu que on fasse la Tfila. Alors, tout de suite, d'abord, même si on voulait, on n'a pas le temps ce soir, si on voulait relire notre Gemara dans cette perspective, vous verrez que ça ne résout pas les problèmes. Parce que même comme ça, ça reste difficile. Et c'est le Maharal qui nous permettra de lire le Tanakhuma et la Gemara. Mais il y a une chose quand même sur laquelle on attire votre attention, c'est un tout petit commentaire, où l'on est sur la deuxième page, je l'ai souligné, non sur la première page. C'est uniquement le commentaire, justement, lorsque le Maharal dit, bon, sur la Torah écrite, est-ce qu'on peut dire que Israël a eu besoin de faire une tufia, de les forcer, n'avait-il pas dit Maaseh v'Nishma? Mais c'est sur la Torah orale, parce qu'il y en a beaucoup, etc. Et tout de suite, le commentaire qui cite Al-Shir, c'est Rav Al-Shir, qui est un grand kabbaliste, un grand commentateur, va nous dire, attention comment il faut lire. Voici ce que dit. Vous avez vous l'avez souligné, Elo Omar Lohem, al Tomash et Balekul. Vous voyez? Bon. Alors qu'est-ce qu'il dit? Le Kavana Israël. Et l'intention d'Israël. Chez l'Orotsu, le Kabel Torah chez Balpé. L'intention d'Israël pour laquelle il ne voulait pas, il ne désirait pas accepter la Torah orale. L'Oroïsorak. Mais à Havosom et Sachem, elle ne procédait que de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas voulu prendre la Torah uniquement par amour de Dieu. Alors, ça sent renversé. Pourquoi? Le Omron, Paris disait, les Hébreux de cette époque, mis. Yatsor Koar, la Hamod, le Holdik Douke, Torah Shebalpé. Qui trouvera la force de tenir le coup? Qui trouvera la force nécessaire pour tenir dans tous les détails de la Torah orale? Qui pourra faire Bon, il est écrit dans la Torah, tu mangeras cachère. Bon, ça je peux. Ce Shabbat, je peux. Mais